Donc ici, je voudrais revenir sur quelques aspects du récit des mages, qui est un récit très connu. Je voudrais revenir d'abord sur le fait que les mages, en ayant vu l'étoile, ne sont pas allés directement à Bethléem, ça aurait pu être le cas, puisque l'étoile les guidera de toute façon, mais ils ont voulu passer par Jérusalem, et là, ils ont une confirmation de l'endroit exact où Jésus est né, notamment grâce à la parole de Dieu, cet extrait de Michée, que les scribes ont su interpréter. Et ici, je pense qu'il y a un message très important. Vous savez, on a des intuitions, Dieu nous parle directement par les événements de la vie, par ce genre de choses. Mais ici, la parole de Dieu veut nous rappeler que toutes nos intuitions doivent être confirmées par la Bible. Parce que si jamais on veut vraiment, si on pense que l'on peut connaître la volonté de Dieu sans la Bible, eh bien, on va très vite se faire un Dieu à son image. Vous savez, c'est les nouvelles religiosités qui disent qu'on peut connaître Dieu par la nature, par ceci, par cela. C'est pas tout à fait faux. Bien sûr, dans la première épître, dans l'épître aux Romains, pardon, au chapitre 1, et dans le livre de la Sagesse, au chapitre 13, il est dit que la nature est un livre, où Dieu se révèle en partie. Mais il faut se méfier parce que ces intuitions, très souvent, c'est simplement s'écouter soi-même et on est très vite, enclin à se faire un Dieu à son image et à se dire que la volonté de Dieu correspond à la nôtre. Et ici, les mages ont eu la sagesse d'aller, ils ont voulu avoir confirmation de leur intuition par le peuple de Dieu d'abord, donc si on transpose à maintenant par l'Église, et l'Église elle-même, eh bien, elle se sert de la parole de Dieu. Et il faut faire très attention aussi. Dans nos églises, notamment, c'est un piège qui guette parfois, qui a guetté très longtemps l'Église catholique. Il faut revenir sans arrêt à la parole de Dieu. L'Église est lumière des nations quand elle-même sait, à l'image des disciples d'Emmaüs, se mettre à l'écoute du Christ qui nous explique la parole. Et ici, c'est ce qui se passe. Disons, ce n'est pas le Christ ici qui interprète la parole, mais les scribes se mettent à l'écoute de la parole et donc, vont guider, vont confirmer surtout l'intuition des mages. Donc quand nous avons l'impression que Dieu veut nous dire quelque chose, eh bien surtout que cela ne nous dispense pas de chercher confirmation dans sa parole, dans un esprit de prière, parce qu'on peut aussi faire bien sûr lire la Bible tout ce qu'on veut, en toute honnêteté. Et ici, il y a aussi quelque chose d'intéressant sur la lecture de la parole, parce que les scribes lisent bien la parole avec leur tête, ils interprètent. Ils trouvent des choses factuelles, mais c'est une lecture très superficielle qui reste à la surface du texte. Vous voyez, ils trouvent l'endroit où le Messie doit naître, c'est surtout une recherche intellectuelle, énigmatique. Et je crois que l'exemple de la bonne lecture de la Bible, c'est Marie. Marie, dans ce passage, quand les mages vont arriver à Bethléem, ils la trouvent à côté de Jésus. Et la parole de Dieu ne peut être pleinement comprise que si nous la lisons avec Jésus à côté de nous, je dirais même comme centre. C'est tout l'aspect de l'interprétation traditionnelle dite allégorique, tellement pratiquée par Paul et à la suite de Paul par les pères de l'Église. Et d'ailleurs, Jésus ne fait pas autre chose avec les disciples d'Emmaüs, où il explique tout ce qui le concernait. Je vous conseille la lecture aussi de la première épître aux Corinthiens chapitre 10, où Paul lit notamment l'histoire de l'eau qui jaillit du rocher avec le Christ en tête. Il faut faire comme Marie, se tenir aux côtés de Jésus, avoir Jésus sous les yeux, avoir Jésus présent à l'esprit quand on lit la parole, et la méditer en silence, dans un esprit de prière, avec un regard d'amour sur le Christ, comme Marie a eu un regard de mère et d'amour sur Jésus, son enfant, ce petit nourrisson. Sinon, nous sommes comme les mages, pardon, pas comme les mages, comme les scribes, une lecture intellectuelle, d'ailleurs qui ne change pas leur vie. Puisqu'ils sont inquiets, ils ne vont pas rendre hommage au Messie. Donc cette lecture, elle ne nourrit qu'un temps la tête, mais pas le cœur, et on voit très vite ses limites, puisqu'elle ne nous fait pas agir selon la volonté de Dieu. Donc il faut vraiment une lecture méditative, comme Marie, elle est dit d'ailleurs plus juste avant qu'elle méditait ses paroles dans son cœur, les paroles des bergers, enfin tout ce qui était arrivé. Vous voyez? Je crois que c'est Luc chapitre 2. Et une autre chose dans ce récit qui me frappe, c'est que Hérode, Donc ici, si on prend Hérode, il veut absolument tout diriger. Il envoie les mages, il veut savoir ce qui se passe, et il veut rester maître de tout et surtout pas laisser la place au Christ. Et quand il voit que les mages arrivent et parlent d'une étoile, cette chose mystérieuse qui guide les mages, eh bien il s'en inquiète. Il a peur de tout ce qui n'est pas visible, de tout ce qui lui échappe, de ce qui échappe à son raisonnement, à son pouvoir. Eh bien, nous-mêmes, nous devons avoir confiance en l'action de Dieu et savoir qu'il y a un monde invisible, et savoir que tout ne peut pas être résolu rationnellement et par nos propres forces. Nous ne devons pas faire comme Hérode. Et parce que si nous faisons ça, si nous jugeons trop vite, comment dire, en sous-estimant la présence de Dieu, ce monde invisible de la grâce et de l'amour où il travaille, eh bien, nous ne nous épargnerons pas des détours, comme les mages qui sont obligés de faire un détour et qui vont devoir rentrer dans leur pays et quelque chose de, comme je l'ai dit dans l'enregistrement principal, quelque chose de terrible va arriver car il va falloir des décennies, voire des siècles avant que les païens redécouvrent cette intuition des mages. Quel détour! Donc il ne faut pas, comme Hérode, avoir peur et se recroqueviller sur son pouvoir. Et nos églises ne doivent pas réagir comme Hérode, ne pas être inquiètes de ce qui leur échappe. Nous devons être ouverts sur la grâce, nous devons être priants. Vous voyez, les églises se vident et on sent parfois une certaine panique et on essaie d'avoir des moyens très humains pour attirer. Et ça, c'est quasiment du prosélytisme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je crois d'abord qu'il faut avoir un regard plus spirituel sur les choses. C'est quelque chose qui doit arriver, hein. Dans les deux épîtres à Timothée, Paul le dit, que à la fin des temps, les gens ne supporteront plus la vérité. Donc il ne faut pas paniquer. C'est le prélude, Jésus le dit lui-même, hein, dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, que tout ce qui semble être perdu est un signe que la fin va bientôt arriver et qu'il faut redresser la tête. Donc déjà, ayons ce regard plus spirituel. Et de même, nos difficultés, si elles ne résultent pas de nos péchés ou l'hostilité des autres, n'est qu'un prélude à un travail plus important de la grâce, tel Pharaon qui, plus il s'endurcit, plus Dieu agit dans sa vie par les plaies d'Égypte. C'est un paradoxe, mais ça veut dire que plus les gens montrent une hostilité, etc., plus ils sont sur la défensive, c'est parce que quelque part, la grâce se fait plus proche et plus pressante. Et donc, c'est vraiment un espoir qu'il faut avoir. Éviter d'être comme Hérode, inquiet. Donc, il faut accepter ce travail. Et maintenant, si l'on prend le travail sur nous-mêmes, il faut aussi accepter, à l'inverse d'Hérode, que les choses peuvent nous échapper, que nous ne sommes pas parfaits, que nous avons, résultat de notre enfance ou de d'autres choses, des blessures. Et il faut les accepter, les regarder en face avec humilité, sans détour, parce que si jamais nous refusons, tel Hérode, de voir les choses avec humilité et de s'agenouiller devant le Christ pour tout lui confier, et si nous voulons agir par nous-mêmes, comme Hérode tente de le faire, alors comme les mages, il va y avoir un détour. Et nous allons avoir des refoulements et des choses qui vont beaucoup nous blesser. Et notre orgueil qui fait que nous refusons de voir la réalité en face, que nous ne sommes pas parfaits, que nous avons des blessures, peut être catastrophique car ça nous prépare des fois des problèmes psychologiques très graves. Il faut aussi accepter cette lumière de l'étoile de Bethléem dans nos cœurs qui va nous conduire à tout confier au Christ tel les mages. Si nous ne faisons pas ça, eh bien, cette adoration des mages qui peut nous sauver va faire un détour et nous nous préparons de bien tristes moments. Et une dernière précision, c'est accepter le mystère de la mort et du monde invisible, pas comme Hérode, je l'ai déjà dit, hein, et le rationalisme. Il ne faut pas refouler cet appel d'un monde meilleur et de l'au-delà. Ne pas refouler la mort, parce que si nous refoulons cette idée de la mort et de cet abandon à Dieu, eh bien nous aurons une spiritualité très terrestre, et c'est effectivement toutes les nouvelles spiritualités, à commencer par cet ersatz de bouddhisme que nous fait le New Age, etc. Ou parfois même certains prêcheurs américains prêchent l'évangile de la prospérité. Non, mais si la foi chrétienne se résume à être plus heureux sur cette terre simplement, eh bien, au moment de la mort, nous serons complètement désemparés. Et les nouvelles spiritualités de maintenant, ou l'astrologie, toutes ces choses-là, si vous regardez bien, Ce sont des choses, on dit, il faut être bien dans sa peau, bien pour mieux vivre maintenant. Le Christ nous le dit aussi, mais ça passe par un regard levé vers le ciel, et ça passe par une lucidité, parce que il faut comprendre que cette vie ne pourra pas nous satisfaire pleinement, et c'est dans cette mesure-là, précisément, que nous pourrons la vivre mieux, parce que nous aurons le recul nécessaire et la patience nécessaire par rapport à nos limites et à celles des autres. Voilà, c'était la précision que je voulais, ou enfin plutôt les précisions que je voulais apporter par rapport à cette lecture des mages. Alors je vous propose maintenant un petit moment de prière à partir de ces précisions. Seigneur, oui, aide-nous à avoir un regard plus spirituel, aide-nous à voir ton action dans les cœurs, aide-nous à voir aussi que ce monde dans lequel nous vivons n'est pas le monde définitif. Et apprends-nous vraiment à vivre pleinement les pieds sur terre avec le regard tourné vers le ciel et le regard tourné vers ton action dans les cœurs, à commencer par le nôtre. Autrement, eh bien, à l'inverse des mages, nous n'allons pas nous agenouiller. À l'inverse de Marie, nous n'allons pas te contempler. Et alors nous nous préparons de détours très douloureux. Oui, Seigneur, apprends-nous à regarder à toi. Amen. Fin de l'enregistrement.